Bonjour et bienvenue dans Blague à part, l'émission qui vous ouvre les portes du monde de l'humour. Et aujourd'hui, on ouvre cet épisode avec une humoriste qui va nous en dire un peu plus sur le rodage. Le rodage est une pratique pour préparer le spectacle.
Blague à part, l'émission qui vous ouvre les portes de l'humour. Vous pourrez découvrir les coulisses du monde de l'humour à travers le regard de professionnels du milieu toutes les deux semaines, le jeudi à 18h sur le 93.9 et en podcast sur le site de radiocampusparis.org.
Et aujourd'hui, en première partie, on va recevoir Camille Laurenté, humoriste. Et en deuxième partie, on reste avec elle et nous allons jouer au jeu du petit bac revisité. Et bonjour Camille.
Bonjour Rosalie.
Tu es une humoriste qui joue ton premier spectacle en rodage. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, le rodage est un spectacle avant d'avoir un spectacle définitif, une sorte de bêta-spectacle.
Ouais, on peut dire ça. Ouais. D'entraînement, quoi. Parce que, en plus, moi, c'est mon premier, donc j'avais jamais été une heure sur scène. Donc, je m'entraîne à la fois à l'exercice et à la fois, je peaufine mon texte.
Et par rapport à la différence d'aller sur scène sur des comédie clubs où là vous pouvez jouer quoi, 5-10 minutes?
Ouais, entre 5 et 15 minutes parfois. La différence, bah, c'est que là les gens viennent te voir toi et que tu as beaucoup plus de temps sur scène, donc plus de temps pour installer qui tu es et développer éventuellement des histoires qui prendraient un peu plus de temps, qu'on peut pas forcément faire en plateau quand il n'y a pas de contexte, etc.
On va s'intéresser à tes tout débuts. Et la première question qui me vient, parce qu'en fait j'ai eu une discussion ce week-end sur le fait de se mettre des barrières quant à notre âge pour commencer à travailler dans des milieux artistiques. Et on se remémore un peu nos 15-20 ans, on se disait que déjà c'était un peu trop tard pour commencer. Alors qu'aujourd'hui, de mes hauts, de mes petits 28 ans, je trouve ça complètement absurde. Est-ce que tu as déjà ressenti cette pression de l'âge?
Oui, quand même. Surtout dans le stand-up où chaque année t'apporte de l'expérience et où on dit que ça prend des années pour arriver à un niveau un peu correct, quoi. Là, j'ai entendu une interview de Louis C.K. qui dit à un stand-upper « Ah, mais t'en fais que depuis 17 ans, c'est vraiment le tout début. »
Ouais.
Donc après, tu te compares avec des humoristes qui ont commencé à faire ça à 15 piges et tu te dis « Ah, c'est trop tard. » Mais bon, il vaut mieux tard que jamais, je crois.
Mais oui, exactement. Et est-ce que t'as toujours voulu monter sur scène? T'as toujours eu cette envie depuis toute petite ou est-ce que c'est venu à l'âge adulte?
Non, c'était depuis petite. J'ai commencé à faire du théâtre dans des associations. J'avais genre 7-8 ans, tu vois. Et puis j'ai continué jusqu'à mes études où il y avait aussi une association de théâtre. Et c'était un rêve, ouais, de devenir comédienne depuis longtemps.
Et est-ce que tu l'as fait de façon très linéaire? T'as commencé donc tous ces ateliers-là que t'as fait dès l'enfance et après t'as allé directement à ton spectacle, à essayer de faire du stand-up?
Pas du tout. Je suis passée par un vrai métier, comme on dit. J'ai étudié le journalisme et j'ai bossé quelques années en journalisme avant d'avoir l'opportunité chez Mademoiselle de monter sur scène.
Et parce que Mademoiselle, c'est un magazine sur Internet. Comment, c'était quoi le lien entre monter sur scène et ce magazine?
Ils avaient un plateau de stand-up tous les mois à la Nouvelle Scène qui s'appelait le One Match Show, qui était animé par Marine Baousson et qui m'a proposé de faire mon premier passage de stand-up. Et donc ensuite, j'ai été un peu accro, quoi. Surtout qu'à Paris, on a l'occasion de jouer tous les soirs, plusieurs fois par soir, si on le veut. Donc.
Et c'était vraiment le côté humour qui te plaisait plus? Parce que dans le vu que t'as fait du théâtre, ça pouvait être aussi des spectacles un peu classiques ou faire aussi du spectacle d'improvisation, des choses comme ça. Et pourquoi le stand-up?
Moi, j'ai toujours beaucoup aimé l'humour, les nuls, les inconnus, tout cet humour des années 90, j'en ai beaucoup consommé, quoi. Et le stand-up, c'est une façon de pouvoir monter sur scène sans trop de barrières à l'entrée, autre que avoir tes 5 minutes de blague, quoi. Donc, c'était l'occasion de monter sur scène tous les soirs. J'ai trouvé ça trop cool, quoi.
Est-ce que t'as essayé plein de types d'humour avant de trouver le tien? Je parle d'humour absurde ou d'humour de situation, des humours un peu particuliers où tu t'es retrouvé un peu toi-même? C'était assez simple.
Je crois pas que j'ai testé consciemment en me disant je pars un peu là-dedans. Mais au fil des scènes et de l'expérience que tu prends, tu trouves un peu plus ton style, quoi. Mais ça se fait vraiment. Pour moi, ça s'est fait dans le temps, quoi.
Ton spectacle en rodage parle de ton Ardèche natale jusqu'à Paris. Mm-hmm. Tu cherches l'amour pendant que des hommes cherchent ton clitoris.
Et oui, comme beaucoup de femmes hétéros.
Et oui, bienvenue dans cette.
Formidable expérience qu'est l'hétérosexualité dans le patriarcat.
C'est un spectacle qui parle de ta vie et ça va de pair avec le fait que l'on dit souvent que le premier album ou le livre est le plus personnel. Est-ce que tu trouves ça vrai pour ton premier spectacle ou au contraire tu sens que tu t'es un peu retenue et tu sentis que c'était pas vraiment le moment de te mettre complètement nue?
Non, je crois que c'est assez personnel. C'est aussi le spectacle par lequel les gens vont te connaître. Donc c'est toujours une sorte de carte de visite et une photo de qui tu es à ce moment-là de toute façon. Mais comme c'est la première fois que je monte sur scène, bah, je raconte les choses les plus peut-être évidentes qui me sont venues tout de suite. Et du coup, oui, c'est beaucoup mon histoire personnelle, mon enfance, les histoires amoureuses jusqu'à aujourd'hui.
Et pour ton rodage, tu t'es donné combien de temps pour arriver à ton spectacle final ?
Alors moi, dire en rodage, c'était surtout une bonne excuse pour garder mes notes avec moi, parce que en réalité, il y a des gens qui écrivent une heure de spectacle dans leur coin, et puis qui testent par petits bouts, et puis ensuite qui partent en rodage avec cette heure-là. Moi, c'était quand même beaucoup de blagues que j'avais déjà rodées en réalité dans les comédie clubs, et le jeu, c'était surtout d'arriver à les agencer ensemble, de faire en sorte que ça raconte une histoire sur une heure, et puis ça me permettait de garder ma petite setlist sur scène, la liste de mes blagues avec moi, comme j'ai beaucoup travaillé au final la structure plus que le contenu. Voilà pourquoi j'étais en rodage. Je ne m'étais pas donné de temps déterminé, mais là on commence à arriver à une forme qui me plaît.
Toi, parce que j'ai vu que tu as des dates jusqu'à novembre, décembre.
Ouais.
Donc tu penses.
Je suis jamais projetée aussi loin dans ma vie,
dans ta
c'est
vie.
Un cauchemar.
Et donc tu penses que tout au moins tout le rodage jusqu'à toute cette année, tu vas le continuer
Je pense qu'à la rentrée, on va assumer que c'est le spectacle.
Le spectacle,
shooter une nouvelle affiche et l'envoyer comme ça, ouais.
Ok. Et aux auditeuristes qui nous écoutent, contrairement à ce qu'on peut penser, les métiers artistiques demandent une grande rigueur parce qu'on n'a aucun supérieur qui nous attend au travail. Qu'est-ce qui t'a aidé à avoir cette rigueur et qui t'a permis de créer un spectacle en rodage ?
Ouais, aucun supérieur qui nous attend, puis aucune méthode non plus, quoi. Et le stand-up, c'est vraiment un art qui s'apprend en le faisant. C'est ça qui est très particulier, quoi. Tu dois monter sur scène même si t'es pas encore prêt. Et je pense que, bah, il y a un côté addictif quand même à monter sur scène. Des fois où c'était dur, où je me comparais aux autres en me disant non, mais c'est peut-être pas pour moi, je vais faire une pause. Ça te rattrape quand même cette adrénaline et cette envie d'y aller tous les soirs. Et c'est en y allant beaucoup, quoi, en faisant beaucoup de comédie club, que j'ai pu me perfectionner petit à petit, mais ça a pris 5 ans, quoi.
Est-ce que tu saurais quantifier le nombre de temps ? Tu m'as dit 5 ans. Est-ce que dès le début, 5 ans, tu as pensé à essayer de faire un spectacle ou juste essayer déjà d'être drôle ? Et tu saurais quantifier un peu le nombre de temps qu'il t'a fallu pour lancer ton spectacle en rodage entre tes premiers essais sur scène jusqu'à la première fois où tu as montré un public ? Pour le moment, tu t'es dit, tiens, là, j'ai envie de faire un spectacle, je vais commencer à écrire pour ça. Jusqu'à aujourd'hui.
C'est vraiment Comedy Class, moi, une émission à laquelle j'ai participé sur Prime Video, qui était un concours d'humour avec Eric Ramsey, qui m'a donné la confiance de me dire, ok, là, je suis prête pour faire une heure, parce que c'est une échéance que je reculais. Et puis, Fanny Ruet m'a donné une deadline pour jouer ma première heure au Kings à Bruxelles. Et c'est là que je me suis lancée. Mais sinon, j'aurais pu reculer indéfiniment. C'est après l'émission que je me suis dit, bon, il faut se lancer, même si c'est pas parfait, et on le peaufinera petit à petit.
En rodage.
Tout à fait.
Et les auditeuristes ne se rendent pas forcément compte, mais une humoriste est toujours entourée de plusieurs personnes, plus ou moins impliquées dans le spectacle. Est-ce que tu peux nous les présenter, les gens qui gravitent autour de toi, qui ne sont pas forcément dans le spectacle, mais qui t'aident à faire ce métier ou vraiment qui t'accompagnent ?
Alors jusqu'à maintenant, j'étais plutôt très solitaire, donc je n'ai pas grand monde à te présenter. Il y a bien sûr mes collègues que je croise en plateau, qui peuvent te donner un retour, te filer une idée de blague. Voilà, j'ai essayé d'écrire avec des co-auteurs, mais c'est assez... rare, quoi, de trouver quelqu'un avec qui il y a la bonne alchimie. Donc, pour l'instant, j'étais vraiment toute seule. J'ai booké ma tournée toute seule. Là, je commence à m'entourer petit à petit.
Ouais, et tu commences à t'entourer de qui ? Un producteur, un metteur en scène ? Je vois que la mise en scène, pour l'instant, c'est toujours toi.
J'aimerais avoir l'œil d'un metteur ou d'une metteuse en scène. Ce serait bien quand même. Et donc, j'apprends ça, ouais, qu'il faut s'entourer. Moi, je suis un peu contrôle freak et... Et okay. Donc j'ai tout gardé sous la main jusqu'à maintenant, mais là j'arrive aux limites de ce que je peux faire toute seule. Donc je vais effectivement peut-être coproduire le spectacle et j'ai un petit manager qui va m'aider.
Ok, trop bien. Bravo en tout cas d'avoir tout fait toute seule, c'est un
Merci.
Énorme taf.
Je suis épuisée.
Oui, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Et en termes de rythme, est-ce que tu as voulu créer un spectacle qui enchaîne les rires ou au contraire tu as voulu un rythme où le rire est un peu plus espacé, tu prends peut-être des moments avec un peu plus de gravité ?
Non, j'aime pas trop les spectacles d'humour qui ont un moment émotion, je vois pas trop le délire. Moi, ma référence, c'est vraiment d'être bon comme les Américains, tu vois, c'est un peu cliché, mais et de faire du stand-up pur, ça me plaît vraiment, et van, moi, ça me plaît beaucoup, quoi. Après, c'est vraiment chacun son style, mais j'en parle dans le spectacle du fait qu'il y aura pas de moment émotion, pas de grande morale qui sera délivrée. Un jour, je suis allée à un spectacle d'humour où vraiment il y avait toute une partie qui faisait mais chialer quoi. Et bah va repartir sur la blague après. C'était bon, ouais. Voilà, c'était les montagnes russes de l'émotion. C'était une bonne expérience, mais moi personnellement, j'aspire plus à la vanne.
Aussi pour les auditeurs les plus timides, est-ce que c'est un spectacle qui interagit beaucoup avec le public ?
Non, pas tellement. Je suis pas du tout une snipeuse. Je roste pas le premier rang. Il y a des petits moments d'interaction, mais c'est pas du tout ma spécialité. Moi, faut savoir que j'ai été si stressée pendant tellement d'années, j'osais même pas toucher le pied du micro. Je touche le pied depuis très récemment, je me permets de régler la hauteur et tout, mais avant c'était un tel stress pour moi juste d'être sur scène que sûrement pas improviser avec le public, c'est venu après quoi.
Et comment t'as réussi à dépasser le stress? C'est en vraiment pratiquant ou...
Oui, c'est en pratiquant. Ouais. Ça devient de plus en plus normal. Quand il y est tous les soirs, ça devient pas non plus le bureau, mais quand même, tu déstresses avec l'expérience, quoi.
Et il y a un côté un peu collègue avec les autres humoristes, où étant donné que ça change énormément, où tu envoies beaucoup passer les mêmes parce que tu vas aux mêmes endroits.
Oui, souvent on se recroise et puis ça fait maintenant des années qu'on tourne sur les mêmes plateaux, donc j'aime bien le fait qu'il y ait ces collègues autour de toi, et à la fois tu fais ton truc solo, un peu comme dans une rédaction de journaliste au final, où t'es dans une équipe mais tu travailles seul quoi.
Et on t'a vu passer en radio. C'est quoi la grosse différence d'écrire pour du stand-up et là de passer en radio ?
Déjà, c'est un format beaucoup plus court. En radio, je fais des chroniques de 3 minutes et mes collègues sont très bienveillants et rigolent à gorge déployée. Ils sont pas du tout un public difficile, quoi. Donc ça, c'est quand même agréable. Et c'est différent, mais je saurais pas t'expliquer la nuance entre le stand-up et la radio. Faut aller peut-être plus droit au but en radio. Tu peux te permettre d'être un peu plus littéraire aussi.
Okay. Est-ce qu'il y a d'autres médiums qui t'intéresseraient aussi ? Ça peut être peut-être les livres, peut-être d'autres formats, ou c'est vraiment le médium stand-up qui te plaît le plus ?
Moi, j'aimerais bien jouer dans de la fiction aussi, des séries, des films, ça ce serait trop bien. J'ai vraiment jamais eu l'ambition d'écrire un livre. Je respecte beaucoup les gens qui font ça, mais je crois pas en être capable.
Eh ben, je vais te demander la dernière question que je pose à tout le monde, c'est quel conseil ne t'a pas aidé dans ta carrière, dans ton processus créatif ?
Je pense que ce qui m'a pas aidé, c'est de me dire c'est comme ça qu'il faut faire. Par exemple, il faut avoir telle routine d'écriture. Seinfeld, il parle beaucoup de sa routine d'écriture, Jerry Seinfeld. Et ça me faisait beaucoup rêver quand j'ai commencé le stand-up. Il va tous les jours gratter tant d'heures, comme si voilà, c'était, enfin, parce que c'est son travail. Donc il s'est dit à un moment, il faut que je le considère comme un vrai travail et que je me présente devant le truc. J'ai essayé de faire ça longtemps. C'était très frustrant parce que moi, ça me correspondait pas au final. Donc si j'avais un meilleur conseil, c'est trouver votre propre processus créatif.
Et merci beaucoup. Merci à Camille de nous avoir ouvert les portes de ton monde artistique. On te retrouve à Nantes le 3 mai.
Oui.
Tu restes avec nous pour la deuxième partie. Et Camille est toujours avec nous pour la deuxième partie de cette émission, Le Petit Bac Revisité. On va jouer au Petit Bac classique, mais avec des catégories inédites, comme le nom d'un slogan d'un lobby ou le titre d'une chanson de Laurent Voulzy. Et ça commence toujours par la même lettre. La grande nouveauté, c'est qu'on peut inventer des réponses tant qu'elles sont drôles. On va choisir au hasard une lettre. Je vais lancer l'alphabet dans ma tête et Camille, tu me dis stop quand tu le sens.
Ok.
Ok, ça commence.
Stop.
M.
Ok,
on part sur M. Pour les auditeuristes qui veulent jouer avec nous, voici les catégories. Il y a un slogan pour aider les hommes à trouver le clitoris, le titre d'une chanson paillarde féministe, un film français d'auteur qui se passe en Ardèche, la chose à taxer financièrement pour un monde meilleur, le nom d'un sport qui ne demande aucune capacité physique. Ça doit commencer par M, si ça peut être complètement faux tant que c'est drôle.
Ok.
On va se laisser le temps d'une petite pause musicale pour écrire nos réponses et on se retrouve juste après. Wake up, ache up, get your tits up in my makeup, face fuck, get your bake up, fake bluff, fake tough, niggas dicks up, put your six up for the motherfucking princess, rates up, jigs up, put your dicks up, get your dicks up, put your motherfucking sticks up, they suck, that's tough, nigga, pay up, get your rates up for the motherfucking princess. But bullshit me, she freaky, kinda link as Dalai Lama, don't she cool it in November, she get hotter than a sauna, take a trip out of Japan and I tsunami her vagina, wine and dine, Benihana, I'm the new hip hop Madonna, I'm the new hip hop Madonna, I'm the trap Grace Jones, I don't know what type of motherfucking crap they own, I'm like Carrie Bradshaw with a back brace. Soon. I've been carrying you bitches now for way too long. I'm a black bitch, purple cunt, stack chips, smoke a blunt. All beef gets smoked. I'm a real fly bitch, you and coach ho. I'm a real bite bitch, every coast ho. She was talking on the net, she want approach though. I got these bitches white face, you a ghost ho. You a don't you stand on a post ho. Suck it up, stand up, say that shit with your chest. You bitches barking over bones, I got digits to fetch. I can't do bitches, I'm too busy, I don't deal with the press. You the type of hoe to leave a broke nigga impressed. You look a mess, ho. Broke dick got you looking real stressed, ho. These broke niggas ain't cunt or fetch, ho. Stay up, stay woke, stay blessed, ho. You need a wake up, A cup, get your tits up in my makeup, face fuck, get your bake up,
motherfucking princess. Rates up, jigs up, put your dicks up, get your dicks up, put your motherfucking sticks up. They suck, that's tough, nigga, pay off, get your rates up for the motherfucking. Put the motherfucking money in my motherfucking hands. I'm in Gucci in a bonnet, spending motherfucking bands. I got haters, I got fans, I got stands in the stands. Do they love her or they hate her? Either way, they spending bands. I could really give a damn, I could really give a fuck. Long as you bitches know what's up, it's Dolce, bitch, Miss D-O-E, Don Dada, bitch, you notice me. They like Dolce, you the Lulu, you a loose screw. She really giving cunt in a pussy voodoo. She swapped the old nigga for a bitch, ain't new new. She munching on the vibes while she watching Hulu. Wake up, a cup, get your tits up in my makeup, face fuck, get your fake up. Fake love, fake tough, niggas dick suck, put your sticks up for the motherfucking princess. Rates up, jigs up, put your dicks up, get your dick suck, put your motherfucking sticks up. They suck, that's tough, nigga, pay off, get your rates up for the motherfucking princess.
On vient d'écouter Nissan Altima de Dolce. Et on revient donc pour le jeu du petit bac revisité. On a écrit, et j'espère que vous aussi vous avez écrit de votre côté, les réponses. Donc notre lettre c'était M. On va revoir les catégories. Pour un slogan pour aider les hommes à trouver le clitoris, t'as mis quoi Camille ?
J'ai mis Madame peut t'aider.
Ah, j'ai mis me demander, c'est bien. Voilà. Un peu dans le même genre.
Tu vois, ouais. Ne partez pas en autonomie, mettez votre fierté de côté, on a la réponse.
Le titre d'une chanson paillarde féministe.
Mets-la-moi de façon consentie. Mi-paillard, mi-féministe.
Exactement.
Et toi ?
J'avais mis ma gueule, ta gueule. Juste pour toi, t'énerver, t'as une petite chanson qui permet juste de t'énerver. Un film français d'auteur qui se passe en Ardèche.
1000 caillettes en été. La caillette, c'est un petit pâté ardéchois.
D'accord, c'est pour ça.
Voilà.
Moi, je me demande rien, je serais passée.
Ok, waouh, ouais.
C'était pas très localisé Ardèche, je pense que c'est délocalisable absolument partout.
Mais on s'y voit, on s'y voit.
La chose à taxer financièrement pour un monde meilleur, donc il faudrait taxer les...
Les misogynes ou les milliardaires.
Oui,
bah, très bien. Deux fois plus les milliardaires misogynes, je pense.
Oui, bah, une sorte de... au carré, en gros. J'ai un peu pareil, j'ai mis mots et phrases racistes, sexistes, homophobes.
Oui, voilà. très bon projet politique.
Merci beaucoup, je me présente en 2027.
Je serai là.
Le nom d'un sport qui ne demande aucune capacité physique.
La masturbation avec un sextoy.
Oui.
C'est très...
Très bonne... Alors, par contre, pour savoir comment qui gagne, ça, c'est un peu...
Ah,
je sais pas, tu vois.
Ah oui.
Tu vois, il y a un truc dans le jeu, ça peut être...
Moi, je joue que en individuel.
En individuel. T'es pas en, on n'est pas en équipe.
C'est ça.
Non, mais ça pourrait être, tu vois, une compétition. Je pense que sur le temps, la rapidité, mais alors comment savoir si tu fake, tu vois, il y a un truc, il y a une difficulté. On le propose aux Olympiques de Los Angeles. On sait jamais. Moi, j'avais montre en main. Un jeu de fixation sur une montre, tu fais 30 secondes, tu restes fixé sur la montre et t'attends celui qui arrive à rester fixé.
Bah, voilà. C'est à ma portée, je crois.
Ouais, c'est juste pour les TDAH, désolé, c'était pas pour vous. C'était pas fait pour vous. Merci beaucoup d'avoir fait ce petit jeu.
Avec plaisir.
Et merci à toi de t'être confié au micro de Blague à part. Ta prochaine date est donc le 3 mai à Nantes, au Joséphine B. Et sûrement lors de plateaux de stand-up.
Ouais, le 8 mai à Reims aussi. Et puis sur les plateaux, tout à fait, suivez-moi sur Insta.
Et vous trouvez tout, l'Instagram à Camille Lorente. Merci à vous, auditeuristes, d'avoir écouté Blague à part. Et malheureusement, c'est la fin, mais on se retrouve dans deux semaines, toujours à 18h sur le 93.9.